7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On imaginait que les robots, un jour dans les usines, remplaceraient les hommes. Pas que les hommes deviendraient eux-mêmes semblables à des robots interchangeables, broyés par un travail qui ne requiert chez eux plus rien d'humain. Métiers précaires, sous-payés et sous pression à la chaîne, en usine, dans des centres d'appel. Des postes qui usent les corps et les esprits. Ou quand la course à la performance et à la productivité devient prétexte à tous les excès. Comment en est-on arrivé là ? Il a réalisé une enquête glaçante sur le sujet. Thomas Morel, bonjour.
Bonjour.
Thomas Morel, c'est un pseudo. Vous êtes journaliste et vous vous êtes infiltré pendant près de 2 ans dans 5 grandes entreprises du nord de la France. Immersion dont vous tirez un livre, Les Enchaînés, 1 an avec des travailleurs précaires et sous-payés aux éditions Les Arènes. Les Enchaînés, on imagine que ce titre vous est venu au fil de votre immersion.
Oui, j'ai fait 5 entreprises différentes dans des différents secteurs d'activité. Je retiens une conclusion générale, c'est que les salariés que j'ai pu côtoyer durant cette année sont enchaînés à leur poste de travail, pour des raisons diverses, mais ils sont tous enchaînés. Ouais.
On en reparlera avec nous également Maryse Bresson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Les voisins, le sujet vous interpelle. Vous nous écrivez sur Facebook. Je vous lis quelques messages. Amadou nous écrit depuis Conakry, en Guinée. Les conditions des travailleurs peuvent être aussi mauvaises dans les pays en développement. Le chômage est grandissant. Alors même si les patrons ne se préoccupent pas de vos droits, les chômeurs vont accepter un travail à tout prix. Jude est à Cotonou, au Bénin. Au Bénin, où le chômage bat son plein, tu es obligé d'accepter la précarité pour joindre les deux bouts. Et puis Osana nous écrit depuis Béboto au Tchad. Le travail libère l'homme, dit-on. Ce n'est pas vrai. La pauvreté fait qu'on accepte tous les postes, même si on y est maltraité. Pourquoi n'existe-t-il pas un droit international qui pourrait réglementer l'enfer des travailleurs ? Et nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Sophie Le Gall, journaliste réalisatrice pour l'émission Cache Investigation, diffusée sur la chaîne de télévision France 2. Elle a réalisé le terrifiant documentaire Travail, ton univers impitoyable. Et le jeu de mots n'est pas exagéré, vous allez le comprendre, notamment pour les caissières de Lidl, une enseigne de la grande distribution.
Là, ces derniers temps, pratiquement tous les jours, il y avait une fille qui craquait. Hein. La pression en permanence. On fait jamais assez bien, c'est jamais assez bien, c'est toujours plus. Alors qu'on donne le meilleur, le meilleur, le meilleur.
Dans ce magasin, les caissières affirment que les pauses étaient interdites. Pourtant, c'est la loi. Dès qu'un salarié travaille plus de 6 heures, il a droit à 20 minutes de pause.
Quand moi je donnais des temps de pause, on me le reprochait. Tu sais, les filles, elles n'ont pas besoin de pause. Faut que tu sévisses, faut que tu les tiennes un peu plus méchamment.
On pouvait avoir 6 ou 7 heures à travailler d'affilée sans pause. Hein. Moi, il m'est arrivé 2-3 fois de craquer nerveusement en caisse, à plus tenir parce que j'étais fatiguée, on me refusait ma pause. Il a fallu que je pleure, que je craque nerveusement pour qu'on m'accorde ma pause.
Comment vous faisiez pour aller aux toilettes ?
Bah, on n'y allait pas.
Je suis arrivée plusieurs fois, les filles, elles avaient envie de faire pipi. Et c'est moi qui ai pris la caisse pour leur libérer les 3 minutes de pause pipi parce qu'elles étaient au point de faire sur elles.
Quand elles demandaient, on leur disait non.
Tout à l'heure.
On n'a pas le temps.
On est en retard.
Il n'y a personne pour te remplacer. Jusqu'à temps qu'il y en ait une qui m'a fait un malaise en caisse.
C'est arrivé, ça ?
J'en ai une qui m'a fait un malaise en caisse. Elle n'avait pas eu sa pause depuis 6 heures du matin et il était quand même midi et demi.
Et en plus, quand on est en caisse, on est debout.
Oui, parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'assoie.
Et qui avait décidé qu'il était interdit de s'asseoir ?
Un responsable. On ne s'assied pas devant les clients. Parce que c'est pas joli, parce que c'est pas élégant, parce que ça fait fainéant.
Thomas Morel, ces témoignages de caissières à Lidl font écho à des paroles que vous avez recueillies pendant votre enquête ?
Dans certains cas, oui. Bon, là, l'exemple des pauses pipi, par exemple, c'était le cas pour le centre d'appel. On avait droit à 10 minutes par demi-journée de pause pipi, mais on choisissait pas l'heure, on choisissait pas quand, on choisissait pas... Voilà.
Vous ne choisissez pas le moment ?
Non, pas du tout. Non, non, c'était un de nos chefs qui nous envoyait un petit message sur la messagerie interne en disant go pause. Go pause, ça voulait dire t'as le droit à 10 minutes. Profites-en. Et puis reviens vite.
Pourquoi avez-vous mené cette enquête en prenant le parti de vous infiltrer ?
Alors, je raisonne assez peu avec des modèles, mais s'il y a un exemple de journalisme que moi j'apprécie particulièrement, c'est celui de Günter Wallraff, journaliste allemand qui a notamment publié Tête de Turc dans les années 70. Il s'était infiltré dans la communauté turque en Allemagne, où il racontait le racisme ambiant qu'il pouvait y avoir en Allemagne. Et je trouve que cette manière de faire permet de toucher du plus près possible la réalité. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... On arrive vraiment sur l'os, quoi. On est vraiment sur au plus près des choses, au plus près de ce que les gens peuvent vivre dans le monde du travail. Donc, Wallraff a sorti Tête de Turc, il y a Florence Aubenas qui a sorti Le Quai de Ouistreham en France. Ce sont des exemples, et pour moi, ce sont vraiment des références en termes de journalisme d'infiltration.
Et vous vous êtes présenté dans ces entreprises hein, sans changer d'identité, avec parfois un faux CV ?
Oui. J'ai un bac plus 5 puisque j'ai fait une école de journalisme et mon bac des fois suffisait pour me faire rentrer dans des entreprises, ou le bac plus 3 aussi pour le cas de Cofidis. Jamais le bac plus 5, mais sinon c'était à bac, ouais, je rentrais à bac.
Vous avez travaillé dans 5 entreprises dans le nord de la France. D'abord, vous avez commencé par travailler 7 semaines dans une usine qui emballe des chocolats, c'est moi, avec des fèves de cacao importées de Côte d'Ivoire. Et très vite, vous le décrivez dans le livre, une cadence infernale s'installe puisqu'en fait, il vous faut répéter le même geste toutes les 2 secondes à peu près. Ce geste, c'est de lever les bras.
Oui, et les auditeurs qui sont derrière leur poste peuvent tout à fait mimer ce geste dans leur cuisine. Vous avez un tapis roulant devant vous qui va de la droite vers la gauche. Vous en avez un autre devant vous, au-dessus du premier, qui vient vers vous. Et vous piochez 2 chocolats, un chocolat dans chaque main, et vous les mettez sur l'autre tapis roulant. Voilà, vous faites ça. Tac, tac. Vous levez, vous baissez. Vous levez, vous baissez. Tout, voilà, ça fait 1 seconde, 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Vous faites ça pendant 7 heures.
Pendant 7h15, soyons précis,
pardon.
Car la moindre minute compte. Et un collègue d'ailleurs vous conseille très vite, ne regarde pas l'heure. Si tu commences à regarder l'horloge, ça passera encore moins vite.
Oui.
C'est dire l'amour, ou le désamour plutôt, hein, pour le travail qu'ont les ouvriers dans cette usine.
Oui, c'est du boulot. On est dans une usine agroalimentaire, mais il s'agit vraiment de boulot alimentaire là. Ouais, on était saisonniers, certains étaient embauchés pour 4 ou 5 mois. Moi j'y suis resté 2 mois. Mais il s'agit vraiment d'un boulot alimentaire, en attendant de trouver mieux ailleurs, quoi.
Et quel est le profil alors de ceux qui travaillent ici, dans cette entreprise ?
Des gens souvent assez âgés, qui ont vécu les fermetures d'usines dans le nord de la France. Il y a un des témoignages, par exemple, Luc, qui a bossé chez Fildar qui faisait des chaussettes, qui a fermé. Il a retrouvé une autre entreprise toujours dans la chaussette. Elle a fermé et il se retrouve à finir sa carrière professionnelle à plusieurs mois dans l'année avant de partir en retraite. Il y avait plusieurs personnes dans ce profil-là. Ensuite, vous aviez des gens de moins de 30 ans qui étaient en attente de essayer de rebondir par un emploi dans cette usine-là. Mais effectivement, il y a un désamour total du métier, quoi.
Quel regard vous portez sur cette précarité et sur ces conditions de travail, Maryse Bresson ?
Alors, moi, ce qui me frappe, là, alors le terme précarité ici, il n'est pas appliqué à l'emploi, hein, il est vraiment appliqué au contenu de l'activité et du travail.
Parce que certaines de ces personnes peuvent être aussi en CDI, hein, ouais, titulaires.
Oui, ouais, exactement. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a des proximités quand même fortes avec ce qu'on a décrit sur le taylorisme dès le 19e siècle, voilà, avec des gestes très répétitifs, le travail à la chaîne. Finalement, on voit que ça a encore une réalité très forte dans la France d'aujourd'hui, donc qui est peut-être pas majoritaire, hein, mais qui visiblement est encore très présente et qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises, puisque visiblement il y en a 5 déjà là qui ont été observées.
Et on s'accroche en fait à son emploi parce qu'on sait que ça peut être très difficile d'en retrouver un ailleurs.
Alors sur l'entreprise C'est Moi par exemple, vous avez à peu près 200 salariés qui sont en CDI, la moyenne d'âge était assez élevée, une cinquantaine d'années.
En contrat à durée indéterminée.
Voilà, contrat à durée indéterminée. Les autres sont saisonniers, donc embauchés 4 ou 5 mois. Moi, la ligne où j'étais, il y avait simplement 2 titulaires, la chef de ligne et une autre salariée qui faisait les mêmes tâches que nous. Donc moi, c'était une ligne à saisonniers, quoi. Il n'y avait que des saisonniers.
Avec la peur que le contrat ne soit pas renouvelé.
Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, c'est une ligne où vous avez des gens qui reviennent là depuis 15 ou 20 ans. Et en gros, à un moment, il y a ce passage où vous avez deux salariés qui hurlent en disant « On a nos 610 heures ». Donc les 610 heures, ça veut dire qu'elles ont travaillé 610 heures dans l'année, donc elles auront droit à toucher Pôle emploi. Le seul challenge qu'elles ont en rentrant à ces mois, c'est de faire ces 610 heures-là
pour arriver ensuite Pôle emploi. Toucher
les allocations chômage pour ensuite revenir à ces mois.
C'est la routine
c'est
infernale
leur
qui s'installe.
Leur quotidien, c'était ça. Ouais.
7 milliards de voisins, quand le mot travail devient synonyme d'enfer.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Et tout de suite, témoignage. Stéphane est salarié depuis 7 ans chez Amazon, plateforme de vente en ligne. Une ancienneté très rare dans une entreprise où le turnover est fréquent. Il travaille dans l'informatique, il est délégué syndical sur le site de Saran, près d'Orléans, au sud-ouest de Paris. C'est le premier site que le géant américain Amazon a ouvert en France en 2007. Pour Stéphane, les conditions de travail se sont dégradées au fur et à mesure des années. Elles empirent d'ailleurs avant chaque fête de fin d'année, hein, qu'on appelle là-bas la période rouge. Sur le site de l'entrepôt d'où partent en fait hein, les colis, près de 2000 salariés et 1200 intérimaires. Cerise Maréchaux la joint par téléphone.
Un salarié subit et vit des conditions infernales à Amazon, ça c'est une certitude. Le management est un management de résultats, c'est un management pathogène, c'est un management totalitaire par moment. Le manager a tout le temps raison. Le recrutement est fait aussi pour que le management soit très dur avec les salariés. Et ça se justifie avec le nombre d'accidents de travail, le nombre de dépressions, le nombre de problèmes.
Oui. Amazon est réputé pour des cadences infernales.
Oui. À une époque, un salarié pouvait être amené à faire ses 20 km en une seule journée. Donc 7 heures de boulot, il va marcher du matin jusqu'au soir, avec peut-être une demi-heure de pause fractionnée en deux fois. Maintenant, le management a plutôt tendance à faire travailler une personne 2-3 heures ou une heure sur un poste. Donc la personne va marcher 5, 6, 7 km. Mais on va la réaffecter à un autre poste où ensuite elle sera debout pendant encore 2, 3, 4 heures. Donc vous vous dites bien qu'au niveau des conséquences, il n'y a pas que les jambes qui vont prendre, il y a aussi le dos, il y a aussi les bras, il y a la nuque. Parce que quand on regarde un convoyeur tête baissée pendant 2-3 heures, enfin on rentre comme si on avait fait un marathon, quoi. Et puis ça c'est toute l'année. C'est une pause par jour, c'est 30 minutes. Mais je vous parle même pas de la surveillance qu'il y a derrière tout ça. Nous, on a eu des cas où il y a eu des personnes qui ont été sanctionnées d'un avertissement parce que la personne est revenue une minute trop tard ou est partie une minute trop tôt. Une personne il n'y a pas longtemps qui a été convoquée parce qu'elle est partie boire un verre d'eau. Si le manager a une pression et que ses chiffres sont pas bons dans la journée, il va chercher un fautif ou une fautive, un bouc émissaire, et puis il va lui coller sur le dos. Ça, ce sont des choses très courantes à Amazon.
Sur les plateformes logistiques, comment s'organise cette surveillance? C'est-à-dire que concrètement, ces personnes, elles passent leur temps à couvrir de longues distances pour aller récupérer des colis, puis les déposer quelque part, et elles utilisent une scanette pour scanner les colis ou les livres. Ça veut dire que ces personnes sont géolocalisées en permanence?
Effectivement, ils ont un scanner et ils ont une productivité minimum à respecter.
De combien?
En fait, c'est en pourcentage. Donc forcément, si on a 20 articles à scanner dans l'heure et que j'en fais que 10, j'aurai que 50%. Donc forcément, là, je me fais remonter les bretelles. C'est un message qui apparaît sur le scanner. Moi, j'ai déjà vu personnellement des « remets-toi au boulot », dépêche-toi, ta productivité est pas bonne, voilà. Bon.
Il y a des salariés qui vous expriment un sentiment d'être harcelés par cette surveillance?
Oui, bien sûr, tous les jours. Par exemple, un manager qui va dire à son salarié « Estime-toi heureux d'être ici parce que si je veux, t'es plus là, quoi ». C'est arrivé aussi, alors il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, qui a voulu se former. Puis on l'a dit tout simplement, le jour où je te formerai, c'est le jour où je te virerai.
C'est-à-dire ?
C'est tout simplement que je ne te formerai pas, tu te tais, si tu continues à demander, je te mets à la porte. Les pressions sont diverses, elles peuvent être directes, elles peuvent être indirectes via le travail justement, des techniques managériales qui sont un petit peu, enfin moi je dirais même douteuses quoi. Et ce sont des conditions qui sont inhumaines tout simplement.
Et le géant de l'e-commerce Amazon a déjà 4 entrepôts en France. Il prévoit d'en ouvrir un 5e à Amiens, dans le nord de la France. L'entreprise américaine est critiquée pour ses conditions de travail. Alors Thomas Morel, vous n'êtes pas allé enquêter à Amazon, mais il y a des similitudes entre ce que l'on vient d'entendre et puis ce que vous avez pu observer dans les 5 entreprises où vous vous êtes rendu.
Oui, les cadences ou les pressions sur la productivité, par exemple, c'était visible dans le centre d'appel, c'était visible à Toyota.
À Toyota, vous montiez, vous vissiez des trains arrière de voitures.
C'est passionnant, hein, comme boulot. Je montais et vissais entre 330 et 340 trains arrière de voitures par jour. Donc les voitures, c'était des Toyota Yaris, des petites, l'équivalent de petites citadines type C3, quoi. C'est la même taille. Et c'était le poste de travail, c'était 72 secondes pour visser entièrement un train arrière de voiture. Voilà. Donc ça, je faisais 330 fois la même chose. Et c'était à chaque fois sur un process de fabrication de 72 secondes.
Et on contrôlait cette vitesse d'exécution?
Il y a une autorégulation parce que si à la 73e seconde, vous n'êtes pas au début de votre poste de travail pour commencer la voiture qui vient d'arriver, la ligne s'arrête. En gros, c'est pas la 73e seconde, mais c'est à la 77e ou 78e seconde. Si vous avez du retard, la ligne s'arrête automatiquement. Moi, j'étais sur le poste 5 de la ligne châssis 1. Moi, j'ai fait arrêter la ligne un paquet de fois parce que j'étais pas le meilleur ouvrier de l'usine, très clairement, en termes de manuel, quoi. Mais le poste 5 s'allumait sur un tableau lumineux et s'allumait en rouge. Et là, du coup, le chef pouvait directement voir que moi, j'étais en retard, etc., et que j'avais fait arrêter la ligne. Donc, je me prenais une douille.
Et à Toyota, on vous annonce le jour même que votre contrat ne sera pas renouvelé.
Alors en fait, quand j'étais à Toyota, c'était en plein pendant les manifestations contre la loi El Khomri. Et moi, je voulais tester un intérimaire qui fait grève à Toyota. Donc j'ai fait grève.
À vos risques et périls.
Oui. Mais bon, j'avais pas l'intention de rester. Donc voilà. Non, c'était pour tester ma hiérarchie par rapport à ça. Est-ce qu'un intérimaire peut faire grève et être prolongé quand même? La réponse est non. En fait, j'avais signé pour 3 mois et il y a une petite clause en bas de mon contrat d'intérimaire qui disait si au bout de 2 mois et demi, l'entreprise n'a plus besoin du salarié en question, on le vire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Sauf que plutôt que de me l'annoncer une semaine ou 2 semaines avant, ou 1 mois avant, on est venu me l'annoncer à 21h43 alors que ma journée de travail s'arrêtait à 21h48.
Pourquoi, selon vous?
Bah parce que j'avais fait grève.
Et pour éviter peut-être aussi que vous soyez démotivé au travail.
Pour éviter la contagion surtout.
Pour éviter la contagion. Oui. Maryse Bresson, alors ce qui est frappant, on le voit, hein, c'est la façon dont peuvent se terminer aussi ces contrats. Le fait que ceux qui sont les moins performants peuvent apprendre du jour au lendemain que leur contrat ne sera pas renouvelé, voire parfois même écourté.
Alors ça, c'est typiquement la précarité, c'est-à-dire l'incertitude. On ne sait pas effectivement, on a une incertitude sur la temporalité. Donc on ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester en emploi. Et puis on voit aussi que c'est vraiment une des caractéristiques fortes de la précarité. Hein. Le fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir rester en emploi, si on va pouvoir rester dans cette équipe, dans cette ville, dans cet endroit, si on va pouvoir avoir un salaire à la fin du mois qui sera suffisant. Là, on voit bien effectivement, c'est vraiment cette dimension-là, je trouve, qui est par rapport à la pauvreté ou à d'autres problématiques qui sont liées, hein, ce qui est la caractéristique de la précarité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un moyen de pression énorme pour accepter des conditions de travail dégradées et dégradantes, quoi. Donc effectivement, là, il y a un lien entre l'emploi, les conditions d'emploi, et puis du coup, ce qui devient possible de faire accepter à des personnes.
Avec des conséquences psychologiques, évidemment, et physiques, on en reparlera pour tous ces ouvriers. Maryse Bresson, Thomas Morel, surtout, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI pour continuer d'explorer un monde dont on préférerait presque ignorer l'existence. Un monde de brutalité, un monde déshumanisé. Les voisins, les voisines, vous restez avec nous à l'écoute. A tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
De voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. au cœur d'une réalité invisible qui concerne des millions de salariés dont l'impunité quasi totale. Bienvenue donc au cœur de la machine infernale du travail. Un monde où les hommes sont des chiffres, les accidentés du travail des bons à rien, dont il faudrait se débarrasser au plus vite, à l'heure où en France le mot pénibilité vient d'être supprimé à l'initiative du chef de l'État, Emmanuel Macron. Les enchaînés, c'est le titre de votre enquête, Thomas Morel, publié aux éditions Les Arènes. Thomas Morel, c'est un pseudo et vous êtes infiltré dans 5 entreprises du nord de la France. À vos côtés sur ce plateau, Maryse Bresson, sociologue, professeure à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et nous sommes en ligne tout de suite avec la journaliste réalisatrice Sophie Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête dans 2 entreprises, hein. D'abord Lidl dans la grande distribution et puis dans des centres d'appel de Free, fournisseur d'accès Internet. Cette enquête a été diffusée dans l'émission Cache Investigation, disponible sur YouTube, hein. Nous en avons mis le lien sur notre page Internet. Alors parlons peut-être d'abord de Lidl. Pourquoi était-il nécessaire d'infiltrer quelqu'un de votre équipe en caméra cachée pour enquêter ?
Je pense qu'il était important de le faire et on le voit d'ailleurs assez clairement quand on regarde le reportage, puisqu'on n'obtient pas du tout les mêmes informations en caméra cachée et en caméra ouverte, hein, puisque le début du reportage, ça se passe effectivement dans un magasin Lidl où on nous laisse tourner les préparateurs de commandes en train de travailler dans les entrepôts. Et évidemment, ce qu'on nous montre à ce moment-là, ce qu'on nous dit est totalement différent de ce qu'on va nous découvrir en caméra cachée. Donc c'est aussi l'intérêt de la caméra cachée, c'est-à-dire que nous, on ne le fait pas pour se dire on va faire de la caméra cachée, on le fait un peu comme un dernier recours quand on sait que c'est la seule manière d'avoir des informations. Et par exemple, là, ce qui est très clair, c'est que Lidl refuse de dire qu'il y a des cadences dans ses entrepôts et il suffit de tourner en caméra cachée pour très vite découvrir évidemment qu'il y a des cadences et que les salariés sont soumis à ces cadences.
Et qu'il faut porter l'équivalent de 250 colis par heure.
C'est ça, voilà. Donc ça, c'est effectivement une information qu'on va recueillir en caméra cachée, mais qu'on n'obtiendra jamais de manière officielle de Lidl.
Ça veut dire un colis toutes les 14 secondes. Alors, il y a aussi la question des débrayages. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Évidemment, les ouvriers qui participent à ces débrayages, notamment pour protester contre les cadences de travail, sont ensuite pénalisés.
Alors, chez Lidl, je ne sais pas, parce que le cas de figure ne s'est pas vraiment posé. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Mais chez Free, en tout cas, ce qui s'est passé dans un centre d'appel, le centre d'appel Mobipel, qui est situé en région parisienne, c'est que à la suite d'un débrayage de quelques heures, les salariés ont vu, en tous les cas, les effectifs de ce centre d'appel fondre, hein, puisqu'on a divisé par 2 les effectifs, et qu'un mail a été envoyé très officiellement par la directrice des centres d'appel de Free aux organisations syndicales en leur disant que le site était devenu dorénavant pour Free un site sensible. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Quelques heures de débrayage et votre site devient sensible et puis dans les mois qui suivent, les effectifs vont fondre. Donc on peut légitimement se poser des questions sur le lien entre les deux.
Et la pression, hein, Sophie Le Gall, vous le montrez dans ce cache investigation, s'exerce aussi sur les managers qui ensuite, bien sûr, la font peser sur le reste des salariés. Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage de Ferral Messac. Il a travaillé 10 ans comme conseiller, chef d'équipe et même responsable plateau dans un centre d'appel de Free.
Quand on m'a recruté comme responsable d'équipe, une des questions qu'on m'a posées, c'était « Est-ce que vous avez des états d'âme à licencier les gens ?»
Oui, ça faisait partie des critères de recrutement.
Oui. Est-ce que vous avez des états d'âme si vous devez licencier des gens ?
Vous avez licencié beaucoup de gens ?
Oui.
Combien ?
En tant que responsable d'équipe, en 4 ans, je ne dois pas être loin de la centaine.
Centaine de licenciements ? Et en tant que responsable plateau ?
Beaucoup, beaucoup. Peut-être aussi une centaine. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça va très vite, hein, ça va très vite. Les absences, les retards. Et puis après, il y a le côté production aussi. Voilà, si les résultats ne sont pas là, vous mettez fin à la période d'essai, vous faites des choses comme ça. Ça va très très vite.
Et ça fait quoi d'avoir licencié comme ça une centaine de personnes ?
Parfois, c'est très douloureux. Parce que vous savez pourquoi la personne a été absente. Vous savez pourquoi la personne est en retard. Et quand vous envoyez un dossier de licenciement parfois au service RH, ouais, des fois c'est à contre-cœur. Et quand vous assistez à l'entretien, parfois c'est très difficile, parfois c'est très difficile.
Lui aussi a fini par être convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il ne s'y est jamais rendu. Il était en dépression depuis 3 mois, après avoir reçu un avertissement.
Quand vous mettez un avertissement de travail à un responsable plateau, c'est que ça commence à sentir le roussi, parce que je l'avais déjà vu faire. Et je pense que 48 heures après avoir reçu cet avertissement de travail, est arrivé le week-end, et le lundi matin, j'ai pas pu me lever en fait pour aller au travail. Plus de jambes, la tête qui suit pas, scotché sur le canapé que vous avez à côté là, mais détruit.
Et quand vous êtes allé voir votre médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il me dit, là, vous êtes en dépression, burn-out total, quoi. Donc je vous arrête. Vous vous soignez et vous oubliez le monde du travail, quoi.
Sophie Le Gall, ce témoignage recueilli chez Free, nous raconte le désarroi même des managers qui subissent eux aussi ces conditions de travail.
Oui, c'est sûr. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a fallu quand même un grand courage à faire Al Messak pour témoigner, parce que ce sont des témoignages qui sont difficiles à obtenir, notamment en télévision, parce que les salariés, quand ils sont dans les entreprises, ils ont peur d'être licenciés, et quand ils sont licenciés déjà et qu'ils sont au chômage, ils ont aussi souvent très peur de ne pas retrouver de travail, et donc il ne faut surtout pas témoigner de ce qu'on a pu voir dans les entreprises. Donc c'est vrai que déjà pour ça, faire Al Messak nous livre un témoignage sur le management chez Free, et c'est vrai que c'était courageux de sa part, parce que moi j'ai beaucoup de cadres que j'ai rencontrés qui ont accepté de me raconter les choses de manière informelle, mais il n'était pas question de témoigner devant une caméra, et pourtant son témoignage effectivement éclaire vraiment sur le management chez Free.
Thomas Morel, des managers sous pression, vous en avez rencontré aussi ?
Oui, évidemment, ils sont sous pression, notamment dans un centre d'appel, par exemple celui où je travaillais. Mais moi, je peux pas vraiment en parler de ça, de ces pressions des managers, parce que je travaillais surtout avec les salariés du bas de l'échelle. Donc des témoignages comme celui de ce
contact des managers. J'aimerais qu'on revienne, Sophie Le Gall, sur les convocations préalables au licenciement. Vous êtes procuré quelques extraits sonores enregistrés pendant certaines de ces convocations, des extraits qui sont sidérants, que vous avez scriptés et fait enregistrer d'ailleurs par des voix différentes pour qu'on ne reconnaisse pas les salariés impliqués. On entend par exemple l'exemple de Julien, licencié parce qu'il est arrivé plusieurs fois en retard le matin, des retards de 3-4 minutes.
D'ailleurs, c'est ce que nous dit Faire Al Messak, quand il dit ça peut aller très vite, des retards, des problèmes de production. Et c'est justement à ça qu'il fait allusion, c'est que dans les centres d'appel, et ça je pense que Thomas Morel a pu aussi le noter dans le centre d'appel où il a travaillé, parce que ça c'est quelque chose de commun à beaucoup de centres d'appel, c'est que le temps est en permanence minuté, et les salariés, en tout cas chez Free, il suffit de quelques retards à plusieurs reprises et vous pouvez vous faire licencier. Ça va très très vite.
Et quel intérêt à autant licencier ? C'est quoi ? C'est de faire peser une pression en permanence ?
Alors, je pense que pour eux, ils se disent d'abord que ce sont des salariés interchangeables, puisque ce sont des salariés avec un faible niveau d'études, qu'on peut assez vite, alors même s'il y a une formation quand même, mais on peut assez vite, devenir téléconseiller, et que ce sont des gens qu'on pourra remplacer rapidement. Beaucoup sont licenciés pour faute grave, ce qui fait qu'il n'y a pas d'indemnité à verser. Donc simplement, si le salarié, lui, saisit les prud'hommes et se lance dans une procédure qui va lui prendre plusieurs années, puisque en général, Free va faire appel, donc vous imaginez, ce sont des procédures très longues pour des salariés qui touchent globalement le SMIC, donc évidemment il y en a très peu qui vont porter plainte, ce qui fait que ce sont des licenciements qui ne sont pas coûteux. Donc le seul coût, c'est effectivement de reformer des salariés, mais je pense que ce qui est important pour eux, c'est que le système fonctionne vraiment avec leurs règles et qu'il suffit d'un petit grain de sable pour qu'effectivement on puisse vous licencier, parce qu'on estime que vous enrayez la machine, quoi.
Et ce qui est ironique, Sophie Le Gall, c'est que la directrice des centres d'appel de Free a reçu des prix pour ses techniques de management. Dans ses discours, elle parle de bien-être au travail, de créer un enchantement au quotidien. On est bien loin des réalités sur le terrain.
Oui, c'est tout le paradoxe. C'est vrai que quand vous regardez, ce que là, on a mis quelques extraits, mais on trouve beaucoup de vidéos sur Internet qui montrent justement cet enchantement des salariés chez Free. Et puis c'est vrai que quand vous grattez un peu, que vous rencontrez des téléconseillers, ou des managers, vous n'entendez pas exactement la même chose. Donc c'est ce double langage en fait, avec une partie en communication qui est très utile pour les entreprises, parce que d'abord ça permet d'attirer des nouveaux salariés, des nouvelles candidatures, et puis je pense que pour l'extérieur, pour leurs consommateurs, de savoir que ce sont dans les entreprises où les conditions de travail sont bonnes, c'est quelque chose d'important, de positif. Et puis effectivement, il y a la réalité qui est un peu différente, quoi.
Et puis on l'aura compris, c'est métiers usent les corps. C'est le cas à Lidl, hein, en grande enseigne de la grande distribution. Je vous laisse écouter un nouvel extrait de ce Cache Investigation.
Elle s'appelle Alice, Nathalie ou Marie-Ange. Elles ont tout donné à Lidl, y compris leur santé. Elles ont toutes été licenciées.
Marie-Ange, aujourd'hui, elle est détruite. Avant de retrouver du travail, parce que par rapport à son âge, plus on avance en âge, plus c'est difficile.
Moi, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de cervicales. Et même à la médecine du travail, on m'a dit, vous avez eu un accident au niveau des cervicales. Non, je n'ai jamais eu d'accident.
Tour à tour, elles nous racontent leurs années Lidl, les maladies qui apparaissent et leur corps brisé par le travail.
J'ai les poignets qui ont lâché, parce que les tendons, au bout d'un moment, ils tiennent plus. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je souffre du poignet. Si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, même si je travaille, il suffit que je porte quelque chose, mon poignet peut lâcher. Donc j'ai automatiquement les objets qui tombent par terre.
Et ça, c'est arrivé petit à petit? Comment ça se passe, le tendon qui lâche?
Non, c'est en soulevant une palette. On faisait des piles de 10. Et c'est en mettant la 10e palette que mon poignet a lâché.
Et là, quand on peut plus, le corps dit stop. Hein, ça.
C'est vous, aujourd'hui, vous avez encore des douleurs?
Ah, mais j'ai toujours, je subis tous les jours mes douleurs. Hein. J'ai mal à mon dos, j'ai mal à mes cervicales, qui engendrent de grosses migraines, et je suis très mal.
Au bout de la 6e année, j'ai commencé à avoir un peu mal au dos, des petits trucs comme ça, quoi. Et bien, par la suite, des problèmes de tendinite au bras, au coude. Et après, ça s'est empiré en micro-fissures des tendons.
Donc, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire?
Le poids. J'ai beaucoup de mal à soulever du poids.
C'est-à-dire à partir de combien de kilos, ça devient déjà compliqué pour
vous? Un pack de lait, j'ai du mal à le soulever, quoi.
Ah oui.
Et ça s'est empiré là. C'est là que je suis restée un an en arrêt et que j'ai été licenciée après.
Sophie Le Gall, vous le dites, dans cette enquête à Lidl, le taux d'accident du travail est 3 fois supérieur à la moyenne dans le secteur. Et quand on est déclaré inapte au travail, l'entreprise a le droit de nous licencier.
Oui, alors c'est le taux de gravité en fait, hein, qui est 3 fois supérieur à la moyenne du secteur, mais le taux des accidents de travail aussi est supérieur à la moyenne du secteur. Ils sont sur les deux thématiques. Et c'est vrai que le licenciement pour inaptitude, voilà, c'est prévu par le droit du travail. C'est effectivement une des rares façons de pouvoir licencier les gens pour des raisons médicales. Alors le licenciement pour inaptitude, ça concerne pas que des maladies professionnelles, hein. Ça peut aussi être des maladies qui sont liées à d'autres choses dans la vie, mais c'est vrai que chez Lidl, on a fait le calcul et on est arrivé quand même à 2000 licenciements en 5 ans et très peu de salariés reclassés, alors que justement les entreprises ont normalement une obligation de reclasser ces salariés inaptes, et d'autant plus inaptes quand c'est lié au travail.
Et la question que vous posez aussi, c'est celle évidemment de l'après pour ces salariés qui sont de futurs chômeurs longue durée en puissance en fait.
Oui, ça c'est ce que nous dit effectivement un ergonome, hein, à qui on montre effectivement les bilans sociaux, notamment de Lidl, et puis on lui montre aussi, parce qu'on va faire porter à notre journaliste infiltré un électrocardiogramme qui va nous permettre de mesurer de manière objective la pénibilité du travail, c'est qu'à terme les corps s'usent et qu'à terme ce sont des chômeurs de longue durée, puisque on est sur une population qui est souvent peu diplômée, et donc finalement les métiers qu'elle peut remplir sont des métiers où elles ont besoin de leur corps. Elles ont besoin que leur corps soit en bonne santé. Et c'est vrai qu'après des années de travail comme caissière, du jour au lendemain de vous retrouver licenciée, vous ne pouvez plus être caissière. Et quel métier vous allez faire? Et c'est vrai que moi, je vois les femmes que j'ai rencontrées, certaines, notamment Marie-Ange, là qu'on entend. Marie-Ange, elle n'a toujours pas retrouvé de travail. Et là, elle entame une formation. Ça va être long, ça va être compliqué. Et elle a plus de 50 ans. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait de tous ces salariés licenciés pour inaptitude? Et ils sont très nombreux en France, hein. Ça va bien au-delà de Lidl, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu et qui pourtant, représente plusieurs dizaines de milliers de salariés chaque année qui sont licenciés comme ça.
Merci Sophie Le Gall. Je rappelle que vous avez réalisé l'édifiant Cache Investigation consacré à l'enfer du travail à Lidl et à Free, deux entreprises pourtant fleurons de l'économie française. Alors, les récits de corps brisés par le travail à bout sont omniprésents dans votre enquête, Thomas Morel.
Il y a 5 chapitres. Dans les 5 chapitres, c'est ça.
On a des salariés qui ont mal au dos.
Oui, oui, des gens qui sont opérés du canal carpien de la main gauche, du canal carpien de la main droite, de problèmes au niveau du coude, des épaules, du dos, etc.
Et vous-même, vous avez commencé à ressentir certaines souffrances ?
Oui, le premier mois à Toyota, le matin, c'était ibuprofène.
Un anti-inflammatoire.
Voilà, anti-inflammatoire et puis la pommade sur les biceps, parce que je ne tenais pas le coup. Voilà.
Maryse Bresson, comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit, à ces accidents du travail, à ces souffrances physiques qui sont créées par le travail ?
Alors moi, effectivement, la dimension des souffrances physiques, je l'ai moins vue dans mes propres enquêtes, qui étaient dans la fonction publique notamment. Moi, j'ai plus vu ce qu'on a un petit peu abordé à travers les managers, c'est-à-dire la question de la souffrance psychique, de la pression, du mal-être, de l'impression aussi de faire des tâches, et ça peut être à tout niveau, donc ça m'a frappé également, hein. Aussi bien les catégories C, comme on dit, donc ceux qui sont employés souvent avec niveau bac, qui sont recrutés niveau bac, et puis catégorie B ou catégorie A même, et qui effectivement ont des contenus d'emploi qui correspondent pas du tout, ni à leur valeur, ni à ce qu'ils attendaient, ni à ce qu'ils pensaient faire en arrivant, et qui se retrouvent dans des contradictions et donc dans des mal-être forts, et finalement qui peuvent être remerciés, surtout quand ils sont en situation d'emploi précaire. Donc moi j'ai moins vu la précarité effectivement physique. Par contre, j'ai quand même vu des questions qui étaient liées au danger, par exemple dans des laboratoires de recherche, donc finalement il n'y avait pas toutes les précautions qui étaient prises par rapport à un danger d'un gaz qui peut s'échapper ou de choses comme ça. Quoi.
Et puis donc une vraie souffrance morale. Les voisins, les voisines, on se retrouve dans un instant, mais d'abord South of the River de Tom Misch.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI. I want to stay south of the river with the chains and the gold. We could be out here together, but you have places to go. Watching the sunshine lace the gray. I don't know why. River. This is where it all starts. I think that we could stay here forever, lie on the roof till it's dark. And when the last bus pulls away, I swear that I almost heard you say I should move south of the river. I want to get to know. I want to get to know.
Milliards de voisins, quand travailler devient un enfer. Le sujet vous interpelle, les voisins. Nous sommes en ligne avec une voisine, Nénini Moum. Bonjour. Bonjour, Nénini Moum.
Bonjour.
Vous êtes à Tananarive, à Madagascar. On vous écoute.
D'accord, donc moi je voulais participer à l'émission à propos des travaux des téléconseillères, des téléopératrices qui travaillent dans les appels, parce que les conditions qui sont là-bas sont vraiment pénibles, plus ici chez nous. En plus des salaires qui sont assez bas, il y a aussi les pressions à gérer par rapport aux commandes et aux indications des commanditaires, donc c'est pas facile.
Donc vous-même, vous avez travaillé dans un centre d'appel?
Oui, oui, j'ai travaillé dans un centre d'appel juste un peu avant d'avoir été diplômée et après aussi. Mais j'ai pas pu tenir plus d'un an parce que c'était trop difficile.
Qu'est-ce qui était difficile?
Déjà les horaires, parce qu'on faisait 40 heures par semaine, parfois plus. Et même si c'était les jours fériés ou tout ça, on continuait à travailler. On travaillait les week-ends aussi. Et après, il y a aussi les commandes. Par exemple, si on fait de la télévente, on doit faire pas moins de 10 commandes par jour, par exemple. en émission d'appel, plus environ 400 appels par jour, donc je vous laisse imaginer à quel point c'est dur. Et les horaires, les 40 heures par semaine, ça commence parfois à midi et puis on finit à 22h du soir. Donc on arrive chez nous à 22h, 23h, on se couche à minuit pour se réveiller à 8h et on est déjà en retard pour l'horaire de midi. Donc voilà.
Et vous étiez sous surveillance par vos superviseurs?
Oui, parce que tous les appels sont sur écoute pour voir si on suit bien la procédure. Si on n'a pas d'accent, parce que vu qu'on parle à des Français, quand en France, il ne faut pas confondre notre accent. Et pour voir aussi si on respecte bien la procédure, parce qu'il y a certaines phrases qu'il faut toujours être répétées quand on parle aux gens, et à force de répéter la même phrase au moins 100 fois par jour, on finit par craquer.
Et on vous donnait un blâme hein, si on entendait votre accent malgache?
Oui, on est blâmé si on entendait notre accent. Donc,
Et vous aviez un faux prénom?
Oui, on prend des faux prénoms parce qu'il ne faut pas que les Français qu'on appelle se rendent compte que l'appel vient de Madagascar. Donc on se fait passer pour des Français avec des noms bien français, comme par exemple « Bonjour, je m'appelle Claire Dupont de la part de… » On cite le nom de la société. Mmh. Vous voyez?
Et vous n'avez pas eu envie de rester plus longtemps, en fait, du fait de cette pression très difficile à gérer.
Je ne pouvais pas, parce que oui, c'est très difficile à gérer. On n'a plus de vie carrément, parce que le temps qu'on passe chez nous, on est trop fatigué. Donc on le passe pour dormir ou pour se reposer, il n'y en a même pas assez. Parce que moi, au bout de 4 mois, je suis tombée en fatigue générale. J'ai eu 3 jours de perfusion au calcium pour retrouver mes forces.
Donc, vous êtes allé voir un médecin?
Oui, je suis allée voir un médecin. Dans les centres d'appel, normalement, on a une assurance maladie, mais ce n'est pas aussi facile que ça, parce que les assurances maladie, c'est surtout s'assurer que les employés ne s'absentent pas pour un rien. Donc si on va chez le médecin pour dire « j'ai une migraine », on va avoir un paracétamol immédiatement après, et il faudrait reprendre le travail, même avec une migraine.
Merci.
Donc, voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage terrible, Nénini Moum. Thomas Morel, hein, vous aussi, vous avez donc travaillé, enquêté en centre d'appel pour ce livre. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, notamment à la cadence, 400 appels par jour?
Bah, les cadences, dans le cas de cette dame, il me semble que c'est de l'appel entrant, c'est-à-dire que c'est le téléconseiller qui va prendre son téléphone pour aller piocher dans une liste de numéros de téléphone. Moi, c'était l'inverse, c'était de l'appel sortant, c'est-à-dire c'est les gens qui m'appellent et c'est moi qui décroche et je réponds à leurs questions.
Et vous deviez répondre à 170 clients par jour, ça veut dire un appel toutes les 3 minutes.
Voilà, la moyenne à tenir, c'était 2 minutes 20.
Bon, après... Vous étiez trop lent.
Oui, bien sûr. On est toujours trop lent de toute manière.
On vous disait ?
Oui. En gros, j'ai eu un entretien avec mon manager qui me disait « t'es trop lent parce que tu poses pas les bonnes questions, tu cibles pas assez, etc. » Donc du coup, tu perds du temps à chaque fois. Bah, t'as une moyenne de 3 minutes, 3 minutes 40, je sais plus. Mais un téléconseiller aguerri, qui est là depuis 6 mois, 1 an, va réussir à tenir sa moyenne de 2 minutes 20. Et donc du coup, sur une journée, il passe peut-être 180 ou 200 appels dans la journée. Alors ensuite, sur le témoignage de cette dame, sur les modifications de prénom, moi, là où je travaillais, il n'y avait pas de modification de prénom. Mais j'ai rencontré...
Vous travaillez en France?
Oui, mais vous avez aussi en France, dans certains centres d'appel, vous devez aussi changer vos prénoms. Hein. Vous vous appelez Françoise, bah non, en fait, ça va être Gaëlle, et puis l'autre, ça va être Michel. Quoi. Vous voyez, on change le prénom, et puis tout le monde s'appelle comme ça. Les femmes s'appellent Gaëlle, les hommes s'appellent Michel, et puis terminé. Voyez.
On perd son identité.
Voilà, mais on la retrouve le soir. Mais moi, j'ai pas eu à modifier mon prénom, et les salariés avec qui je travaillais ne modifiaient pas leur prénom non plus. Ça peut être une des différences avec cette dame. Mais sinon, au niveau des conditions de travail, etc., oui, il y a rien de bien différent, en fait. Hein.
Et puis on répond à des clients mécontents. Thomas Morel, comment on ressort d'une telle enquête?
Pour les 5 ou pour le centre d'appel?
Pour les 5. De ces 2 ans d'infiltration.
Quand j'ai terminé Toyota, c'était pour le premier match de l'Euro de foot. Donc c'était en 2016, l'année dernière. Donc j'ai hurlé dans ma voiture en disant « ça y est, c'est fini ».
De soulagement.
Voilà, de soulagement. Mais en même temps, c'est très égoïste comme comme réaction, parce que à Toyota, vous avez des gens qui sont là depuis 15 ans et qui vont continuer d'y être. À Semois, vous avez des gens qui sont là depuis 30 ou 35 ans et qui vont continuer d'y être.
Donc, moi, en apnée, comme voilà, vous l'écrivez.
En apnée, ouais.
Vous avez aussi écrit « L'aliénation du travail a toujours existé, mais autre chose s'est effacée, qui tenait ces hommes debout, la solidarité, la camaraderie ».
C'est surtout visible dans une entreprise comme Toyota, par exemple, mais je pense que c'est principalement lié à l'éclatement des contrats de travail. Au début du XXe siècle, vous aviez le CDI. Je ne sais pas si on l'appelait le CDI, mais en tout cas, vous aviez des gens qui étaient titulaires dans des entreprises. Aujourd'hui, vous avez le CDI, vous avez le CDD, vous avez l'intérim, vous avez le contrat d'alternance, le contrat professionnel, etc. Chacun a des intérêts différents à défendre et chacun va jouer d'abord sa carte personnelle. Pour survivre dans une entreprise, il faut d'abord jouer sa carte personnelle et pas penser forcément au voisin, même si on s'entend bien avec lui.
Et l'individu est seul face à cette machine infernale. Merci, merci à vous Thomas Morel, merci également à vous Maryse Bresson, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin à la réalisation, Cécile Lavolo, Arthur Tossou en coulisses, Baptiste Madinier, et merci à vous pour votre écoute fidèle, les voisins, les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, nos ancêtres étaient-ils vraiment plus heureux, alors que le bonheur est aujourd'hui un objectif personnel à atteindre? Nous avons tendance à nous dire que tout était mieux avant, et pourtant cela ne semble pas vrai quand on s'intéresse aux évolutions dans l'alimentation, l'hygiène, les transports, les mœurs. À demain les voisins.